Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Binge Audio.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ça y est, je suis un vieux con. Je suis ce type qui voit défiler des contenus sur ses écrans et qui a beaucoup de mal à saisir une bonne partie de ce qui s'y dit ou de ce qui s'y montre. Une confusion qui, classique mauvais réflexe, fait émerger dans ma tête cette petite voix qui murmure « Mais c'est n'importe quoi le truc là, c'est complètement débile. » Typiquement ce que j'entendais il y a 10 ou 15 ans à propos de ce que moi je consommais en ligne, à propos des blogs BD, des vidéos MySpace ou des chats IRC. Alors au-delà de mon petit cas perso, je sais qu'on doit être nombreux et nombreuses à avoir un peu de mal à suivre le mouvement. Autant il est indéniable que le web a réussi à forger une culture de masse soutenue par des centaines de sous-cultures plus ou moins cryptiques, autant le côté parfois nébuleux et très éclaté de ces cultures peut les rendre opaques. D'où notre question pour cet épisode, elle est où la culture web aujourd'hui ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Bienvenue dans Programme B.
Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first.
Et celui qui va nous aider à y voir plus clair, c'est Axel Bossard. Il est le fondateur d'un média en ligne extrêmement utile, justement pour garder un œil sur ce qui se fait de nouveau. Ça s'appelle Spotters. C'est un ensemble de comptes sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et c'est aussi une newsletter et un site, spotters.fr, qui regroupe tout ça. Et comme justement Spotters ne traite que d'Internet et de sa culture, j'ai demandé à Axel Bossard s'il pouvait me dire ce que lui mettait derrière le terme un peu fourre-tout de « culture web ».
C'est vrai que la culture web, c'est quelque chose qui est pas évident à définir, mais moi, ce que je dirais, c'est tous les codes, les expressions, les visuels, les références qui vont émerger d'Internet et qui vont être compris par les gens à la base sur Internet. Bien sûr, des fois, des éléments de la culture web peuvent devenir grand public. Un des exemples les plus connus, je pense que bon, ça date un petit peu, mais c'est le Harlem Shake, par exemple. Tu vois. Genre, le Harlem Shake, c'est de la culture web pure, et puis ça a fini par conquérir le grand public. Mais la culture web, c'est vraiment une culture qui naît sur Internet, qui naît des codes derrière Internet, des références d'Internet, et qui va se disperser sur ce réseau en premier, sur ces réseaux en premier, et puis ensuite, pourquoi pas aller conquérir d'autres formats. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui pourraient dire que la culture Internet n'existe pas. Pour la raison simple que la culture Internet va beaucoup reposer aussi sur des éléments qui viennent de l'extérieur. Typiquement, la culture populaire va beaucoup influencer Internet et on va avoir beaucoup de mèmes qui sont issus de séries, par exemple, de séries, de films, etc., qui sont populaires en ce moment. Et je suis pas forcément d'accord avec ces interprétations-là, puisque en vrai, toute culture vient d'une culture et de l'agglomération d'autres cultures. Et c'est juste qu'en fait, la culture Internet va reprendre des éléments de la culture grand public pour créer ses propres items culturels, ses propres artefacts culturels à elle, en s'inspirant de ce qui se fait à côté et de ces grands mouvements culturels, etc., qui sont plus grands que celui plus populaire, quoi. aujourd'hui même, on peut dire que, par exemple, les mèmes ont une place super importante aujourd'hui dans la bataille politique. Typiquement, on le voit en ce moment avec, entre le conflit ukrainien et russe, où les mèmes sont vraiment un outil absolument énorme et où 9gag, qui est un forum, du coup, sur lequel, enfin, un forum site sur lequel on partage, on va dire, les meilleurs mèmes, les meilleures blagues, quoi, a été pris d'assaut par beaucoup de Russes pour, en fait, aller se moquer des Ukrainiens et on va dire, porter un message à l'encontre, en fait, du peuple ukrainien. Et c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que l'un des items les plus forts, des artefacts les plus forts de la culture internet, c'est vraiment les mèmes. Hein, et ils sont extrêmement utilisés dans le champ politique, que ce soit pour dénoncer, que ce soit pour, on va dire, créer des communautés et les fédérer autour d'une vision. Mais typiquement, récemment, avec le Covid, on a pu voir beaucoup de gens faire des mèmes là-dessus, et même là, par rapport aux retraites, enfin, le nombre de mèmes qui ont émergé pour dénoncer les retraites sont énormes. Et d'ailleurs, il y a un article qui a été fait par Le Monde, je crois, sur le sujet, mais les mèmes ont aussi envahi les manifestations, puisqu'aujourd'hui, on les voit sur les pancartes, en fait, parce qu'ils permettent à beaucoup de gens de s'exprimer différemment. Je vais faire un petit pas de côté, mais pour moi, ce que la culture internet a aussi permis, c'est aussi de démocratiser les prises de parole, parce qu'en fait, on n'a pas tous des talents d'auteur, on n'a pas tous des talents d'humoriste. Les mèmes, par exemple, permettent de faire passer des messages de manière extrêmement visuelle, impactante et précise, sans avoir une superbe plume ou des très grandes idées. Et c'est pour ça que je pense que ces mèmes-là vont s'inviter en manifestation, parce qu'ils permettent de porter des messages très forts sans avoir à trouver la tournure, le slogan, tu vois, qui va être super bien sur la pancarte. Et ça se voit, du coup, au-delà de... Bon, là, je parle vraiment du milieu politique, mais tu vois... Juste, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent humoristes grâce aux mèmes. Et on parle même aujourd'hui des mèmes creators, tu vois. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment une démocratisation, je trouve, de la parole, de la prise de parole à travers ces petites créations-là, quoi.
Et c'est un signe de ralliement aussi, le mème, quand on le voit justement sortir de l'écran, quand on l'aperçoit en manif ou dans un autre lieu. C'est une manière de se signaler et de se signaler à celles et ceux qui partagent cette culture aussi.
Exactement, puisqu'en fait, tout le monde ne comprend pas les références, que vraiment la culture internet est jonchée de diverses références qui sont parfois plus ou moins cryptiques. Des fois, bon, tu vois un petit visage sur un panneau, tu te dis « Ok, je comprends l'émotion qui en ressort », mais des fois, il y a juste une réplique qui est sortie de ce contexte et que tu ne comprends pas forcément, et que quand tu as, je sais pas, 50 ans et que tu es habitué à Facebook, tu vas pas forcément comprendre ce qui se passe sur cette affiche. Néanmoins, c'est vrai que du coup, ça permet aux personnes qui sont, je pense, qui comprennent la référence, de très identifier que la personne ici, là, bah, c'est quelqu'un qui partage sa culture, qui partage son quotidien, qui pourrait être un de ses potes aussi. C'est vraiment des clusters culturels qui font que du coup, on va développer des affinités avec d'autres personnes, etc.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une culture web ou des cultures web ? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas aussi un éclatement, une division en sous-cultures ?
Il y a une culture en tête qui est grand public, celle qui est des énormes mèmes que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu, etc. Ça, c'est un vrai cadre, mais avant d'émerger dans le grand public, c'est dans la culture en tête du grand public, ces mèmes-là sont nés avant sur des communautés. Et en fait, pour moi, la culture internet, elle est composée d'énormément de... plein de sous-cultures différentes qui sont soit liées à une plateforme. Typiquement, Twitter, pendant longtemps, a été une culture à part entière, même si aujourd'hui, y a plein de cultures sur Twitter. Des cultures aussi d'intérêt. Typiquement, il va y avoir les fans de Star Wars, ils vont développer leur propre mème et leur propre culture Internet à eux, en fait. Même des fois, juste des cultures qui vont se regrouper autour de créateurs. Je pense à des personnes qui vont être, par exemple, des créateurs très présents sur des réseaux en particulier et qui vont pouvoir du coup façonner, on va dire, la façon dont leur communauté discute entre elles. Voilà. Encore une fois, sur Twitter, c'était très le cas et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont du coup développé ça sur réseau. Mais même sur des réseaux comme TikTok, en fait, je pense qu'il y a des créateurs qui vont aussi façonner leur propre communauté, la façon dont elles interagissent entre elles. Et du coup, en fait, toutes ces communautés-là vont émerger différemment et créer leur propre culture, en fait. Moi, c'est comme ça, on va dire qu'on peut parler de sous-culture, c'est parce qu'en fait, il y a plein de communautés différentes qui développent en fait, leur propre culture, leur propre référence, leur propre mème, leur propre histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas seules, généralement. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas juste... tu ne fais pas partie d'une seule communauté, quoi. En fait, tu fais partie de plein de communautés différentes, sans t'en rendre compte, forcément. Mais c'est ça qui est aussi la beauté d'Internet, c'est que c'est un gloobie-boulga de plein de gens qui font plein de trucs et qui appartiennent à plein de choses différentes et qui se sentent investis d'énormément de cultures et de références qu'ils partagent avec plein d'autres personnes. Et ça crée plein d'interactions, d'amitiés, de culture, etc.
Alors, on a donné à cet épisode un titre un peu volontairement naïf, c'est « Elle est où la culture web aujourd'hui ?» C'est une question un peu impossible, même si tu as commencé quand même à y répondre. Mais je te la retourne, elle est où la culture web aujourd'hui ?
Elle est, en fait, j'ai envie de dire, elle est un peu partout. Elle est forcément sur les réseaux, parce que c'est là qu'elle émerge, et c'est normal. Elle est dans les contenus qu'on consomme, parce que les créateurs sont des générateurs de culture web, il faut vraiment le comprendre. C'est que sur YouTube, sur Twitch, etc., sur TikTok, sur Instagram, les gens reprennent des éléments de cette culture web, vont les diffuser et les faire souvent émerger au grand public. Hein. Tout bêtement, mais typiquement... Il y en a même qui sont à l'origine, eux, des éléments de la culture web, genre Squeezie et son expression « Est-ce que c'est bon pour vous ?» qui a été détournée plein de fois récemment parce que les gens trouvaient qu'il le disait beaucoup trop et du coup, ça les a fait rire de le répéter constamment et de le déformer. Donc, elle est présente auprès des créateurs, mais elle va être présente aussi aujourd'hui dans notre actualité parce que mine de rien, les réseaux sont extrêmement fréquentés aujourd'hui par les jeunes journalistes. Donc, en fait, la culture Internet va aussi émerger dans les grands médias parce que de plus en plus, les personnes qui intègrent ces rédactions-là vont être influencées par ce qui se passe et parce qu'ils sont des consommateurs de ces réseaux. Mmh. Et puis, est-ce qu'elle est dans notre vie de tous les jours ? Je pense que oui, parce que même aussi dans les œuvres qui sont façonnées, dans les films, etc., on retrouve de la culture web. Je pense au dernier Spider-Man, là, qui va reprendre un mème très connu de Spider-Man qui il se montre du doigt. Ils sont trois Spider-Man, ils se montrent du doigt. À la base, je vais raconter l'histoire. C'est ça appartient à la série du dessin animé des années 80-90. Et il y a un screen, mais vraiment, qui a été fait. Alors, c'est une toute petite scène qui a vraiment duré une demi-seconde. Les gens ont récupéré ce screen-là de Spider-Man qui se montre lui-même du doigt. Et c'est devenu même super important il y a 3-4 ans. Et du coup, parce que ce truc-là est devenu super important 3-4 ans alors qu'il a été créé dans les années 80, aujourd'hui, le film reprend cette référence-là alors que ce n'était pas du tout un passage important de Spider-Man. Enfin, ce n'est pas du tout un moment iconique de Spider-Man. Mais parce que la culture web, on a fait quelque chose d'iconique, ils l'intègrent beaucoup plus visuellement dans leur prochain film. Et je trouve ça trop intéressant de voir que les mèmes ont une importance aussi dans la façon dont les œuvres aujourd'hui vont être conçues. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que typiquement la flamme, le flambeau a été conçu pour bien marcher sur TikTok. Parce que en petit sketch, boum, ça marche super bien, quoi. Tu vois, tu peux en extraire 30 secondes et hop, ça, t'es content, ça fait plein de visibilité sur TikTok, etc. Du coup, les gens vont voir la série et tout. Donc même dans les phases de production, ça peut rentrer en tête. Les réalisateurs peuvent se dire, ah, mais peut-être que ce passage-là, ça peut être détourné même, ça peut être marrant, etc. Et même dans l'industrie musicale, enfin... Franchement, je vais enfoncer une porte ouverte, mais tout le monde sait que TikTok aujourd'hui, c'est le roule le compresseur de l'industrie musicale, que si t'as un de tes sons qui devient un challenge, tu deviens automatiquement une star, entre guillemets, je grossis le trait. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui font des artistes qui se mettent à faire des chorégraphies, qui se mettent à concevoir des sons de 1 minute 20 parce que du coup, ça passe bien sur TikTok, qui vont même concevoir des versions rapides, qu'on appelle speed up, parce que c'est des versions un peu... on va dire énergisés, qui sont très consommés sur la plateforme et du coup ils vont les publier aussi sur les Spotify, etc. Et du coup aujourd'hui la culture internet est vraiment partout et on s'en rend pas forcément compte parce qu'elle fait partie de notre vie de tous les jours en fait. Ça fait partie du grand public, enfin la culture internet est devenue une culture populaire, une forme de culture populaire en fait.
Je rebondis sur ce que tu disais sur par exemple la flamme, le flambeau, le fait qu'on retrouve derrière et devant la caméra des créateurs qui sont issus aussi de cette culture web, c'est-à-dire des gens comme Florent Bernard par exemple qui a commencé sur YouTube ou Mr V qui est youtubeur. C'est peut-être aussi là la clé de cette porosité entre la culture grand public, en l'occurrence la télévision qui reste le média grand public par excellence, et ces gens qui sont issus de la culture web et qui donc n'ont même pas besoin de se dire « Tiens, on va aller récupérer des codes de la culture web pour plaire aux jeunes », c'est leur culture.
Exactement, exactement. Ça se fait tout naturellement. Et ça qui est bien, c'est que c'est pas forcé. Bon, ça a été forcé à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de chaînes qui ont voulu surfer un peu sur le buzz de certains créateurs de contenu, etc. Et à chaque fois, ça a mal été fait. Parce que les personnes qui étaient derrière ces projets-là et qui avaient pris ces décisions-là l'ont fait pour les mauvaises raisons et parce qu'ils n'y connaissaient au fond rien. L'exemple le plus fou, c'est quand même la Web TV et le live, qui a été un four absolu parce qu'ils ont voulu... ils se sont dit, ah ok, Twitch, ça marche super bien. Du coup, nous, on va créer une super chaîne Twitch comme une télé avec les plus gros créateurs, mais aussi des gens de la télévision. Et tu voyais mais Michel Simès à côté de Domingo et tu te disais, mais que se passe-t-il, quoi? Enfin, ça se voit que personne ne sait ce qu'ils foutent là. Et au final, le Web TV a fermé... je crois, 3 mois plus tard, quoi. Mmh. Parce que ça a été un projet qui a été extrêmement mal conçu et par des personnes qui n'y connaissent rien. Donc, ouais, il y a quelque chose de ça aussi. Et tu relèves un truc intéressant sur les créateurs, du fait que les créateurs aujourd'hui deviennent aussi des acteurs et sont représentés de plus en plus dans la sphère publique, du coup, notamment avec Le Flambeau et même Florent Bernard, qui est un auteur absolument incroyable, qui est né sur Internet. Hein. Et en vrai, les créateurs aujourd'hui, selon moi, deviennent même... plus important que certaines célébrités. Enfin, à l'époque, il n'y avait que les sportifs et les artistes qui étaient capables de soulever autant de monde et de remplir des stades. Aujourd'hui, bah, tu veux voir un match d'e-sport qui est commenté par Kameto, et bah, le Bercy va être rempli. Mmh. Et Popcorn Festival, qui est un show à la base d'un talk show d'Internet, va faire venir plein de gens dans la ville de Montcuq parce que c'est marrant, et remplir des campings entiers avec des personnes qui vont voir un festival de gens d'Internet. Et c'est magnifique. De voir qu'aujourd'hui, la culture Internet, grâce à ses créateurs, permet aussi de mobiliser des gens dans la vie réelle et de les faire se déplacer.
Voilà. La difficulté, quand on suit, justement, c'est cette culture et c'est sa grande vivacité. Et moi, je l'expérimente tous les jours maintenant que je suis vieux. C'est-à-dire que je sens bien que j'ai connu un web qui était très différent et sur lequel moi, j'ai construit ma culture web à moi, qui est très différent de celui des gens qui ont 10 ans, 15 ans de moins que moi, voire de mes enfants plus tard. Donc, comment est-ce qu'on reste alerte et où est-ce que toi, tu vois, tu détectes les tendances? Alors, on a mentionné évidemment TikTok parce que ça pour le coup, c'est devenu grand public. Mais où est-ce que toi, tu vois, détectes les tendances, qu'est-ce que tu repères, sens pour les mois, les semaines, les années à venir éventuellement?
Alors, déjà, comment on fait pour rester alerte? Je pense que le truc et le conseil majeur, et je pense que c'est un conseil dans la vie, c'est de jamais devenir un vieux con et de jamais regarder ce qui se fait avant, ce qui se fait par les nouvelles générations et de dire ça, c'est ridicule. Il y a trop de gens qui sont passés par ça avec TikTok et peut-être que j'en ai fait un petit peu partie au début parce que je comprenais pas, etc. Mais en fait, il faut jamais oublier que ce sont eux le futur en fait et que ce sont eux qui créent parce que eux, pour le coup, ils ont grandi dans un environnement Internet qui est toute leur vie, entre guillemets. Et moi, j'ai connu les débuts d'Internet aussi, tu vois, avec ça galérait sur AOL, etc. Mais eux, ils ont vraiment vécu dans un monde où la culture Internet est déjà bien établie. Et maintenant, il ne reste plus qu'à eux créer et mobiliser cette culture qui dans laquelle ils vivent, quoi. Et en fait, vraiment, ne jamais regarder ce qui se fait sur TikTok comme un vieux con en mode « Ouais, non, ça, c'est que des gens qui dansent, etc. » parce que c'est faux et qu'en vrai, laisser les gens danser s'ils le veulent, quoi. c'est quand même important. Et en vrai, je pense que moi, ce qui me permet d'être à ce point, on va dire, au courant de ce qui se passe, c'est parce que c'est aussi mon métier et que forcément, du coup, je suis, entre guillemets, absolument addict à tout ça. Je passe des heures et des heures sur Twitter. Et c'est vrai que même des fois, dans l'espace d'une journée, on vient me voir en mode « Oh, t'as vu ce qui s'est passé ?» Bah oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Même si c'était il y a 10 minutes, je l'ai vu avant toi parce que je suis constamment sur Twitter, en fait. Et en tout cas, pour la veille francophone, les réseaux qui sont pour moi extrêmement importants à suivre, c'est Twitter et TikTok. Surtout Twitter parce que c'est... en fait, TikTok, ça reste quand même une communauté assez encore à part, même si elle est très forte auprès des jeunes, des adolescents, etc. Dans le milieu professionnel, dans le milieu médiatique, etc., c'est Twitter qu'il faut viser et qu'il faut regarder au maximum. Parce que c'est là où il se passe beaucoup de choses. Et de toute façon, les gens vont forcément relier ce qui se passe intéressant de TikTok sur Twitter généralement. Et c'est marrant parce que Twitter va aussi souvent aussi de plus en plus, on va dire, inspirer des gens de TikTok aussi. Ce qui était moins le cas avant. Aujourd'hui, on arrive aussi à... Enfin, les vases ne sont plus aussi clos que ça, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a pas de secret, c'est suivre un maximum de personnes différentes, suivre un maximum de personnes issues de communautés très différentes, même si on n'est pas toujours d'accord avec elles. Moi, je suis des gens avec qui je suis en désaccord profond, des fois, sur ce qu'ils disent, mais parce qu'ils ont... ils font partie d'une culture de Twitter, de TikTok, etc., qui ne me touche pas. Et ben, je vais quand même regarder ce qui se passe, parce que ces gens-là, des fois, ils arrivent à percer auprès du grand public, et du coup, c'est toujours intéressant d'avoir accès à ces informations-là. Donc, essayez de sortir de votre bulle de filtre. Je pense que c'est intéressant, c'est les algorithmes et ce qu'on vous propose. Faut en sortir un maximum parce que sinon, vous êtes enfermé dans votre propre bulle et vous n'allez pas voir ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, ça, vraiment, il faut vraiment faire cet effort-là, je pense, d'aller regarder des trucs qui ne vous conviennent pas, des trucs qui ne vous intéressent pas. Si votre objectif, c'est de faire de la veille, hein, bien sûr. Et du coup, de détecter les tendances et... Les tendances, comment tu les détectes, c'est tu vois deux tweets sur le même sujet avec plein de likes, c'est bon, tu sais qu'il se passe un truc. Et des fois même, tu peux te dire, ah ok, ce truc-là, il a du potentiel. Mais à partir du moment où t'en vois deux, je sais que ça fait peu, c'est peu de... Et les statisticiens vont me détester, mais des fois, juste deux tweets, ça permet de dire, ok, là, il se passe un truc. Et les gens commencent à kiffer ce qui se passe et peut-être qu'ils vont reprendre, en fait.
La difficulté, c'est aussi que j'ai la sensation, mais c'est peut-être aussi du fait de l'âge et justement de la distance qui s'installe petit à petit avec ces cultures-là. J'ai l'impression que les cycles de tendance sont de plus en plus courts. Par exemple, je pense à un élément que tu as décrit récemment avec Spotters, qui est la fin de Hurdle par Spotify, qui était donc ce jeu audio qui permettait de découvrir un morceau tous les jours et qui était inspiré de Wordle, qui était le phénomène de l'année dernière, donc de 2022. Phénomène qui, pour le coup, a presque disparu aussi vite qu'il était apparu. Mais ça rend d'autant plus difficile à suivre la culture, ou ça a finalement toujours été un peu comme ça?
Ah ouais, non, ça rend le truc extrêmement cryptique. Parce qu'en plus, les gens d'Internet adorent faire des références à d'anciennes tendances. Et faire un espèce de... Bien, des fois, en fait, pour suivre une tendance qui vient d'un endroit, ben, en fait, faut connaître les 5 références dont elle provient. Et ça, c'est un enfer. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a des références qui sont très deep culture, et que si t'as pas suivi les 5 dernières saisons de je sais pas quoi, ou si t'as pas été sur Internet pendant les 3 derniers mois, et ben c'est mort, en fait. Et des fois même... Il y a des tendances qui émergent sur des trucs qui sont vieux de 10 ans, et t'es en mode, mais attends, mais moi je comprends parce que ça fait 10 ans que je suis là, et voilà, mais oui, enfin, ça devient, limite il faudrait des bouquins d'histoire, tu vois, pour retracer certaines tendances. Et en vrai, il y a un site qui est extrêmement bien pour ça, et que j'utilise énormément dans mon travail de veille, c'est Know Your Meme, et je pense que tu connais, qui est un site absolument fabuleux, qui retrace toutes les grandes tendances du moment, etc. Mais du coup, ça fait plus de 10-15 ans, je pense qu'ils existent. Et en vrai, si tu veux aller regarder l'histoire de la Trollface, bah, tu peux aller le faire. Si tu veux regarder l'histoire de la Trollolo, tu peux le faire. Mais si tu veux aller regarder l'histoire de Wordle, bah, qui est celle de l'année dernière, bah, tu peux le regarder aussi, tu vois. Et tu vois comment est-ce que Wordle est apparu. Ils expliquent quels ont été les mécanismes qui ont fait que le truc a percé, comment ça a été après réutilisé dans la culture populaire. Et moi, c'est un site que j'utilise énormément parce que je trouve qu'il est super intéressant et qu'il se passe plein de trucs. Donc, c'est aussi... Il y a aussi des médias de veille qui sont très intéressants. J'aime bien regarder ce que fait Siècle Digital, par exemple. Je pense que je regarde un peu aussi ce que fait du Melty, etc. Tu vois, parce que bah, des fois, il y a des trucs qui sont intéressants dessus, tu vois. Mais en vrai, globalement, c'est une veille qui se fait de soi-même parce qu'il n'y a pas de grands médias qui le partagent au quotidien. Et c'est ça qu'on veut faire avec Spotter, justement. C'est traiter cette culture au quotidien comme si c'était une culture comme les autres, quoi.
Il y avait encore plein de choses à dire sur les ramifications multiples de la culture web, notamment la place qui occupe la fiction, très importante et très très vive. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur spotters.fr où vous trouverez à la fois les liens qui permettent de rester un peu au courant et des articles de fond pour alimenter votre culture web à vous. Merci à Axel Bossard pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.